Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Radio Lomax, l'émission du 106, avec comme interview aujourd'hui pour commencer Mathiel, puis Jonathan Jérémia et enfin Mick Harvey.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Nous accueillons Mathiel. Elle est illustratrice et musicienne. Elle arrive d'Atlanta aux États-Unis, d'Amérique du Nord. Atlanta, l'aéroport le plus fréquenté au monde, au sud-est du pays, en Géorgie. Et elle arrive avec un disque sous le bras intitulé Satisfactory. Et Jonah est là également avec nous. Bonsoir à tous les deux. Hello.
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 Qu'avez-vous à nous dire de l'industrie en général, tous les deux, puisque... Le disque est intitulé Satisfactory. J'imagine que ça a une relation. Et puis, on a vu les clips, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'industrie en règle générale?
The word satisfactory, one word, is kind of broken in half for the title of the album.
C'est un très joli jeu de mots. Cassé, mais ça reste quand même un mot qui fait référence satisfaction, mais le problème éternel des artistes d'avoir envie d'évoluer. Donc il y a cette idée de factory, faction. Donc on produit, on fait, on refait.
Fabrique, l'usine.
Voilà, on fabrique comme l'usine pour essayer de pouvoir arriver à cette satisfaction. Mais finalement, si jamais on arrive, c'est plus nocif qu'autre chose.
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on veut se satisfaire de la production et de produire toujours plus. Mais finalement, quand on prend ce chemin-là, il n'est pas forcément bon pour soi, quoi.
So the idea of continually producing, but if you ever actually get, I suppose, to the end of anything, well, that's not exactly what you wanted, right?
Right, yeah.
Mm-mm, c'est tout ça.
Sur la photo du programme, j'imagine que vous l'avez vue, la photo qui se trouve ici, on vous voit manger de la nourriture industrielle, justement. Vous qui venez d'un milieu rural, c'est en tout cas ce qu'on apprend quand on cherche un peu à vous connaître. Vous avez été élevé dans une ferme en Géorgie. Ça semble contraire à ce que vous avez dû vivre plus jeune. Est-ce que, justement, ce parallèle-là, est-ce qu'il veut dire quelque chose?
I think this character doesn't have anything to do with my upbringing. This is a character within the album that's working at the factory at lunchtime. So that's what the photo is about.
Juste l'image de le personnage qu'elle incarne dans l'album, où c'est une personne qui travaille dans une usine.
Donc on est vraiment dans un personnage. On peut parler de l'endroit où vous viviez avant, dans cet endroit un peu rural. Comment est-ce que vous viviez la musique à cet endroit-là, par exemple?
I was alone a lot, so I got to know myself pretty well. I was an only child, and I had.
Elle pense que elle a une identité, son identité forte vient peut-être du fait qu'elle a passé beaucoup de temps seule sur un parcelle de terre absolument énorme. Donc elle a fait beaucoup d'explorations, elle a passé du temps seule. Sa maman était artiste et à travers ce temps seul, toutes ses explorations et sa mère qui est artiste, qui a fait que c'est ça que ça a forgé l'artiste, le début de l'artiste. Et dans ce temps seul, elle a aussi passé du temps à écouter de la musique.
Alors j'ai vu qu'ensuite, il y a eu quand même une rencontre importante. C'était en 2014. Vous avez rencontré Randy Michael et Jonas Willey qui est ici ce soir avec nous. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que vous avez commencé à construire ensemble?
Oh yeah, I mean, Randy and I were in a band at the time, and Mathiel contacted him because she wanted to record.
Donc ça, tout ça a commencé parce que Mathiel a contacté Randy Michael, et puis ils ont commencé à explorer ensemble. Ils ont fait un album qui était passionnant, et puis après deux albums plus tard, ils travaillent toujours ensemble.
Et comment est-ce que vous travaillez? C'est quoi le processus créatif?
Well, the process from the beginning on the first record and the second record was pretty much the same.
Ça commence avec une la processus ça commence avec une structure et puis ils se réunissaient au sein du studio et un peu au show où ils travaillaient. Il y a quelqu'un qui mettait Mathiel qui mettait des paroles et ensuite des mélodies. C'est un processus un peu organique. Quelqu'un au fur et à mesure les gens les trois ils travaillent ensemble. Quelqu'un ajoute un peu ceci, quelqu'un ajoute cela.
Vous nous disiez juste avant de commencer cette interview que vous vouliez absolument parler des références musicales. Qu'est-ce que vous aviez envie de mettre en avant autour de cette question-là?
My musical influences are kind of all over the place. I fell in love.
Du côté du Mathiel, il disait tout. Elle est inspirée vraiment de tout. Ça a commencé avec le rock and roll pour progresser par Patti Smith. Et pour Jonah, y compris beaucoup plus. Et pour Jonah, ça passe des groupes des filles des années 60 jusqu'au Wu-Tang Clan. Et puis le son du garage. Donc, entre les deux, ils ont toute une énorme panoplie de références.
Forcément, tout de suite en France, il y a un morceau qui attire notre attention sur votre dernier album, Satisfactory. C'est Je ne me connais pas. En français, dans le texte, d'où elle vient cette chanson-là?
I was in the south of France when I received an email from Jonah. I believe.
Et encore, comme on a dit avant, il y a Jonah qui lui a envoyé la structure d'une chanson, et à ce moment-là, elle était dans le sud de la France. Et pour elle, ça semblait naturel. Elle fonctionnait quand même déjà un peu en français, donc ça semblait naturel quand elle a entendu la structure de mettre une phrase française dans le chanson.
Et vous avez une relation particulière avec le français, quand on s'est rencontrés dans les couloirs tout à l'heure, vous m'avez fait répéter en français, vous avez répété après moi en français l'heure à laquelle vous deviez venir, tout ça. Il y a une volonté comme ça de le français, ça, vous avez envie de l'apprendre, de le connaître?
It's very scattered. I took French when in high school for like.
Elle a fait quelques années de français au lycée et ensuite un voyage à 16 ans et puis elle est revenue en 20 ans et elle tâte, elle essaye, elle s'applique de faire en sorte que ça fait quelque chose.
En tout cas, on est très heureux de vous accueillir en France. Et puis le 8 septembre, vous êtes passé aussi en Angleterre. Vous étiez au Royal Albert Hall de Londres avec un live retransmis sur la BBC. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce moment-là qui est, j'ai l'impression, un moment particulier?
Very exciting. I was very scared.
Elle avait très peur.
Yeah. But they were putting together this thing for BBC Proms.
Elle a chanté un chanson, mais c'était dans le contexte de le BBC. Ils font toute une série Welcome to the Proms, is that it? Mm-hmm. Yeah, qui a démarré en 1941. Et cette année, il y avait Jules Buckley qui faisait des arrangements de la musique. Pour reconnaître la musique du hip-hop du très tôt, le hip-hop
le hip-hop old school.
Ouais, d'accord. Hip-hop old school, tout à fait. Et puis elle a chanté, which song did you sing?
The Mexican by Babe Ruth.
Et puis on voulait juste écouter cet extrait. A crowd of people turned away. But I just have to look. Au-delà qu'on va fêter les 50 ans d'Abbey Road, c'est aussi donc les Beatles, A Day in the Life. C'est un morceau qui justement fait référence pour vous au Royal Albert Hall de Londres. Décidément, j'ai du mal à le dire. Vous pouvez nous expliquer?
Yeah, I remember the first time I ever heard the words Royal Albert Hall, where when I was in my
vraiment quelque chose d'extraordinaire. Elle a entendu quand elle était jeune dans le salon de sa mère sur l'album des Beatles. Et puis un jour incroyablement comme ça, la vie fait que ça devient un mot abstrait dans le salon de sa mère. Et puis un jour, elle est invitée de chanter. Extraordinaire.
Puisqu'effectivement, on cite le Royal Albert Hall de Londres dans cette chanson. Merci Mathiel, merci Jonas d'avoir été avec nous. Thank you very much.
Thank merci. You. Set the table and the silverware, and all you've got is 100-yard stare. So look back at me and finish your food with an appetite and some gratitude. We set the table and the silverware and gave you those clothes that you don't want to wear. But as long as you plan to stay alive, you gotta honor your parents. That's number 5.
children and I'll show them how to congregate. All we need are mouths to feed, so pass around the dinner plate. Give me all your money and I'll open up the pearly gates. What's food for thought when all you've got is something to regurgitate? So now that you're taller, now that you're grown, you can build a table all on your own. And with whomever you decide to be, make sure she makes you up a family. We set you up a resting place and your giant block of marble awaits. And we broke you open an ATM, but don't get greedy, that's number 10. Give me all your children and I'll show them how to congregate. All we need are mouths to feed, so pass around the dinner plate. Give me all your money and I'll open up the pearly gates. What's food for thought when all you've got is something to regurgitate? Now that you're grown, you can build a table all on your own. And with whomever you decide to be, make sure she makes you up a family. We set you up a resting place and your giant block of marble awaits. And we broke you open an ATM, but don't get greedy, that's number 10. Give me all your children and I'll show them how to congregate. All we need are mouths to feed, so pass around the dinner plate. Thought when all you've got is something to regurgitate. Give me all your money and I'll open up the pearly gates. Give me all your money and I'll open up the pearly gates. Give me all your money and I'll open up the pearly gates. What's food for thought when all you've got is something to regurgitate?
Radio Lomax, l'émission du saucisse.
Songwriter à la voix de velours, Jonathan Jeremiah puise ses influences dans les grandes traditions soul et l'héritage de la musique folk anglaise. Adolescent, ses amis écoutaient de la pop contemporaine ou du rock indie. Lui préférait se laisser emporter vers le passé par les vinyles de son père et écouter principalement Scott Walker, Cat Stevens ou encore Serge Gainsbourg. Son quatrième album, Good Day, est une véritable pépite aux arrangements dignes des plus belles productions des années 70. Vous l'aurez compris, nous accueillons Jonathan Jeremiah. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et nous sommes en compagnie de Leïla, encore une fois, pour la traduction. Bonsoir.
Hello.
Leïla. on va commencer par cet album Good Day, le quatrième qui vient de sortir. Comment a-t-il été écrit et réalisé cet album Good Day?
Well, I was always attracted to. I used to be a bit of a rocker.
Son cœur reste quand même avec le rock, qui voulait pendant au début de sa carrière de musique, il voulait quand même être ce rocker avec la grande coiffure un peu foufou. Mais il s'est découvert que forcément sa voix, elle était un peu grave et ça collait pas trop avec le rock. Et donc par la suite, il s'identifiait un petit peu plus avec du Frank Sinatra.
Elvis. Anyone with those big boomy voices, you know,
ouais,
the boom.
Les chanteurs avec les grands voix qui portent, qui sont graves.
They were the songs my dad would sing in the shower, you know.
Ah, yeah. Les chansons que son père chantait dans la douche. Et puis il s'est découvert forcément le patrimoine de la musique de l'Angleterre. So you discovered all that music.
Yeah, I England. Think that's what we all do. We listen to our parents' record collection and then we learn to dislike it and we eventually go back to it.
Que c'est un peu toujours, il pense que c'est toujours comme ça pour tout le monde. On écoute forcément les vinyles des parents et on commence toujours par dire ouais, non, bof, bof, un peu bof. Mais finalement, on revient et puis on dit ouais, il y avait quelque chose.
Est-ce qu'il y a chez vous l'envie de raconter des histoires et si oui, quelles histoires sont racontées notamment dans Good Day mais dans les albums précédents?
Yeah, my earliest memories were first thing I ever wanted to do was go to America.
C'est des histoires beaucoup plus vastes que quelque chose de particulier comme comment il mange ses œufs ou la rupture avec sa copine. Donc ça a commencé plus ou moins avec comment il s'est échappé quand il était jeune. Il rêvait d'aller ailleurs et quand il était jeune, il livrait les journaux tous les matins et il écoutait de la musique de autre chose. Donc c'est plus grand. Ces histoires.
On perçoit notamment dans ce dernier album la joie des choses autour de ces sujets-là. Est-ce que c'est ça qui est abordé, notamment dans Good Day, la joie de vivre, le plaisir d'être ensemble et d'illuminer un peu les auditeurs?
Well, yeah, I mean, I think maybe with this record, you look at the more dimensions.
Ah, il dit qu'il y a quand même de la beauté sur le surface, mais au fond, il y a de la lutte. Il y a forcément, pour arriver à vraiment avoir cette expérience de joie et bonheur, il faut parfois traverser ces moments de... les moments sombres, les moments compliqués. Et surtout, il dit que dans le monde d'aujourd'hui, il y a un peu partout dans le monde, on traverse des moments très sombres. Donc, on peut partager un peu des deux. Donc, il dit que globalement, oui, c'est son album de lutte.
Yeah, I always thought that the... I think it's very tough to write political songs in a very straight.
Oui, c'est un peu même un peu politique. Ce qu'il veut dire, mais personne aime être sujet de quelqu'un qui prêche, car personne aime avoir toujours être sujet de la morale de quelqu'un d'autre, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose de plus grand, un peu plus général.
Est-ce que les villes et les gens qui habitent ces villes vous inspirent ?
Well, there's a history and a heritage of singer-songwriters and people that follow.
Oui, c'est tout à fait ça, parce qu'il cite l'exemple de quand il était au lycée, il était toujours un peu sur le marge, il était le goth avec les cheveux noirs, tout ça, un peu pas tout à fait intégré, donc sa positionnement d'être observateur, c'était forcément plus intéressant, parce qu'il était un peu sur le marge, et c'est comme ça qu'il observe.
Je rebondis là-dessus. Est-ce que le comportement des gens que vous observiez au lycée, il a évolué par rapport au ce que vous pouvez observer aujourd'hui?
I see that I don't have to do a full-time job, which is amazing.
Je vois que j'ai pas besoin de travailler à plein temps.
I feel very fortunate.
Travail normal à plein temps, c'est génial.
Anything that keeps me out of a full-time job. No, growing up, I don't know. It's I mean now.
Il dit que c'est quand même ce qu'il observe, c'est forcément différent, parce qu'il dit qu'il est un peu sur son troisième vie. La première vie en étant un peu la famille, on grandit, tout ça, au sein de la famille. La deuxième vie, c'est quand on commence tout de suite à l'université, à l'aventure, la première étape en dehors de la famille. Et la troisième étape, c'est sa vie, sa carrière. Il a une énorme chance de voyager dans le monde, et d'autant plus qu'il a deux filles jumeaux, donc il est papa, et il commence à aussi voir les choses différemment grâce à ses deux petites filles.
Yeah, it seems like the second life is where, you know, you have your first heartbreak and, you know,
Il dit que c'est vraiment cette deuxième vie qu'il n'était pas du tout content. C'était inactif, il n'y avait pas de mouvement. Et cette troisième vie, ça lui offre quand même de la créativité, ce bonheur de mouvement, de créativité. Il espère forcément que les gens puissent aussi découvrir que la vie soit créative et dynamique. Et il profite vraiment de cette troisième volet de sa vie.
And I wouldn't have, if I was doing this when I was 18, I probably wouldn't have, well, I definitely would be...
Il dit, et heureusement que c'est maintenant, parce que s'il vivait sa vie de maintenant, mais qu'il avait 18 ans, ça serait un peu, il sait pas trop, mais il a le soupçon, ça serait un peu n'importe quoi. Parce que quand tu as 18 ans, forcément, tu as moins de goût, tu as moins d'exigences. Donc ça sera pas forcément aussi délicieux et de bonne qualité, je crois que c'est ça qui veut dire que maintenant.
Yeah, it's kind of like discovering France. I mean, I've my sister's a fashion designer and she spent a few years.
Même c'est sur son quatrième album qui déploie ses ailes et qui voyage vraiment, qui voit plus de la France, mais chaque petite étape à son aventure qui va mener à autre chose. Il parlait de sa sœur qui travaille dans la mode, et il se rappelle très bien cette minuscule petit endroit où elle travaillait à Paris, et maintenant ça se déploie, la vie, les expériences, et heureusement, bon, c'est son quatrième album qui lui apporte tout ce bonheur, tout ce voyage. Hier c'était Angers, aujourd'hui c'est Rouen, et ça va aller de plus en plus. Et de toute façon, même chaque petit endroit a tellement d'opportunités. Donc on démultiplie pas seulement des endroits et des opportunités, mais au sein de chaque opportunité, encore quelque chose d'autre.
J'ai cru comprendre que ce quatrième album, là, Good Day, avait été réédité et enrichi de certains titres peu de temps après sa première sortie. Est-ce que c'est parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir tout dit au premier jet?
Initially, when it came out, I had the first set of songs and And it tells a story.
Au début, il dit que c'était peut-être d'un part de timidité. Il y a une part de timidité. OK, on va faire comme ça. Et puis, on va être bon élève. On va faire exactement comme il faut. Parce que c'est assez réglementé, des albums, X chansons, X temps. Voilà, donc on va suivre des consignes. Et puis, il s'est pris le temps de dire non, je veux autre chose. J'ai envie d'aller des choses qui me tiennent à cœur. On peut quand même aller plus profondément, on peut faire autre chose. Et forcément, c'est les chansons qu'il a rajoutées qui sont les plus intimes qu'il veut partager avec nous.
I mean, for example, when I was writing Good Day, I was writing it in Amsterdam with my friend.
Ouais, il y avait quelques chansons qui collaient pas trop avec le reste. Surtout, il note le chanson qu'il a coécrit avec son ami, qui parle de son divorce et toute la douleur qu'il a partagée avec son ami suite à son divorce. Donc, comment mettre une chanson comme ça? Et aussi, comment mettre une chanson qui parle de son père qui a disparu sur un album qui s'appelle Good Day. Donc, ça ne collait pas trop avec le reste. Donc, il a fait une première tentative plus cohérente, plus stricte. Et puis, le deuxième, il s'est laissé divaguer un petit peu plus.
Vous dites dans des interviews précédentes que vous concevez la musique comme une conversation avec une envie de mettre les relations humaines au centre du propos. Est-ce que c'est parce que vous trouvez que notre monde ou notre époque ne sait justement plus faire la part belle aux relations humaines ?
My mother was one of 16 children, so she had 10 brothers and 5 sisters.
Pour lui, forcément, il a cette histoire qu'il a eu quand même une grande famille des tantes et des oncles. Sa maman en étant une de 16 enfants, son père n'était un sur 6. Et quand il visitait la famille de sa mère, tout le monde assis autour de la table. Et forcément, au lieu de prendre des tours à converser, chaque personne lançait une chanson. Donc c'est un peu des situations où peut-être normalement des gens ne font que discuter, mais lui, il a un rapport du chanson et de la musique.
Et de réunir...
Sorry, just to interrupt you. Just so it takes me back from a couple of days ago. Our friends are living on the... Where is it exactly, Glenn?
Il dit qu'il y a vraiment cette pouvoir qui unissent les gens. Autant Netflix, c'est merveilleux, mais il n'a jamais vu une groupe de personnes s'éclater autant que quand tout le monde est dans une pièce, même s'il y a un piano qui est horriblement pas du tout
accordé.
Mais il n'a jamais vu des choses et forcément, c'est comme ça qu'ils sont encore en train de travailler le prochain album quelque part en France. C'est réunir des gens qu'on connaît pas, mais on se rassemble tous et on partage le chanson.
Oui, il y a chez lui cette envie, cette approche de la musique en communauté, à faire ensemble. Et puis, il y a une démarche aussi artisanale dans son approche de la musique qui serait peut-être un peu en opposition avec l'industrie du disque, de la musique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Est-ce que justement, cette façon communautaire et artisanale de faire qu'il a, c'est un peu en opposition justement à l'ère du temps?
Opposition, not deliberately, not
pas
deliberately,
forcément exprès.
But very much, I was always keen on doing things.
Mais il peut pas compromettre sa façon de travailler. C'est forcément pas le moins cher. C'est même encore un peu bordélique de toujours ramener 6 ou une trentaine de personnes dans un orchestre ou des musiciens avec soi. Mais il conçoit pas de faire ça. Il conçoit pas de faire ça autrement.
Très bien, merci à vous Jonathan Jeremia d'être passé par nos micros. Merci à vous Leïla pour la traduction.
Absolutely. Thank you. What would I do without you, hey? I see the kids, they're running on by. And that girl in the summer dress with the sunshine smile. I hear the birds, they're whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. Busy bee watching the world singing. Left my home and I flew east over North Sea. Life's just beginning, I'm breaking free. On the ninth street with the sun on my back. Yeah, yeah. For Ruben, come.
and get a glimpse. It's here for all of us, so come and warm your skin. On the 9th Street, soon we'll be back on track. Knock, knock for Ruben, come and kill some time on the heroin crack. Busy bee watching the world, seeing all the boys and the girls. You're busy bee, well, haven't you heard? Yeah, this is how it feels when a good thing comes along. Oh, this is how it feels when a good thing comes along. This is how it feels when a good thing comes along. Yeah, this is how it feels. This is how it feels. This is how it feels when a good thing comes along.
Radio Lomax.
Mick Harvey, vous êtes membre fondateur et guitariste de Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party, The Boys Next Door, proche collaborateur de PJ Harvey. Vous êtes admirateur de longue date de Serge Gainsbourg, on va en parler dans cet échange. Vous avez ainsi consacré 20 ans de votre vie à la traduction des textes en anglais. Surpris d'ailleurs que si peu de gens hors de la francophonie connaissent réellement le travail de Serge Gainsbourg. Vous vous êtes donné la mission de rendre justice au travail originel de l'auteur français et vous continuez de creuser son œuvre, ressortant même des créations dont les versions ont été chantées seulement à la télévision. Après les classiques Intoxicated Men en 95 et Pink Elephants en 97, les derniers de vos albums sont à nouveau consacrés à Serge Gainsbourg, Delirium Tremens en 2016 et Intoxicated Woman en 2017, qui inclut de nombreux duos et chansons écrites dans les années 60 pour France Gall, Juliette Gréco ou encore Brigitte Bardot. Bonsoir à vous, Mick Harvey. Merci de nous accorder quelques instants avant votre concert.
Thank you for being... Yeah, no, it's nice to be in Rouen. Rouen.
Bravo.
Not bad. Oh.
Bravo, super.
Pour discuter avec vous, nous sommes en compagnie de Leïla Buchmann à la traduction et dans le cadre de notre partenariat avec le Festival littéraire Terre de Parole, nous serons accompagnés également d'Isabelle Lefort. Bonsoir à toutes
bonsoir.
Les deux.
Bonsoir et bonsoir.
Bonsoir et bonsoir.
Okay. L'ambiance est bien détendue sur ce plateau et oui, on s'en félicite. Pour commencer, est-ce qu'on peut parler de votre rencontre avec l'œuvre de Serge Gainsbourg? Quand et comment ça s'est fait pour vous?
So, I mean, the first time I would have heard his music was probably Je t'aime moi non plus.
Il est rentré en contact avec lui, avec son chanson Je t'aime moi non plus, qu'à l'époque il était repris pas mal. En Australie, avec plein de versions différentes, un peu déclinées, un peu bizarrement. Et plus tard, il s'est retrouvé avec Gainsbourg à regarder sur la télé le vidéo de Lemon Incest,
avec qui il a chanté avec sa fille Charlotte, effectivement.
Yes. Tout à fait. Et puis après, il y avait une carte postale, The Life and Death of
Felix the Cat.
I'm not sure I understand what that is.
Felix the Cat is a cartoon, is an American
Felix
cartoon from the 30s.
Ah, okay. And you had a postcard with Serge Gainsbourg and Felix
and he had
the
a little
cat.
Doll. He had a little toy of Felix the Cat, and it was four Polaroids of him standing there, eventually him lying on the ground dead.
Donc c'était une carte postale avec 10 images de lui et Félix, le personnage de bande dessinée des années 30 qu'il a eu.
I'm sure you could Google it.
Yes. Qu'est-ce qui, au-delà de cette première rencontre, qu'est-ce qui vous a fasciné suffisamment pour, depuis 20 ans, consacrer 4 albums, beaucoup de temps, à Serge Gainsbourg? Est-ce que vous avez commencé par la musique, les mélodies, ou est-ce que ce sont les mots?
Yeah, well, I mean, I really started because I was interested in.
Ça a commencé avec ce qu'on connaît tous de Gainsbourg, Je t'aime moi non plus et Lemon Incest, mais vite ça a commencé, il entendait de plus en plus. À titre d'exemple, quand il était à Nantes avec Nick Cave and the Bad Seeds, il a entendu le chanson Bonnie and Clyde
Et à partir de là, il s'est dit, il y a peut-être quelque chose, il y a quelque chose là, je suis interpellée, il y a quelque chose qui nous a, raconte qu'il a fait, il y a beaucoup dans Gainsbourg. Et il parlait beaucoup de, il parlait aussi de cette importance. Il a pris une pause de 18 ans entre ses deux premiers albums, une pause de 18 ans et ensuite deux albums à nouveau. Donc, qui sait pourquoi, mais ça s'est passé comme ça.
It was strange. Actually, the reason was that the first two albums were being reissued.
Il explique que c'était à la renaissance de ces republications de ces deux albums de 95,
deux premiers albums, absolument.
95 et 97, qu'à l'époque, il n'a jamais fait des concerts avec ces albums. Il dit, bah, tiens, on va rajouter des concerts avec ça. Et puis tout le monde s'est bien amusé suffisamment. Et puis pour replonger dedans, bah, tiens, je vais encore reprendre ce genre de projet. On peut peut-être encore s'amuser. Et comme tout, il dit, comme tout en Gainsbourg, parfois il faut aller trop loin, donc un seul album n'aurait jamais suffi. Il en fallait faire deux.
Oui, il y avait beaucoup de chansons encore à traduire.
Oh, yeah.
Et, alors, est-ce qu'à l'époque, vous parliez déjà un petit peu français? Est-ce que vous compreniez les paroles? Et est-ce que c'est difficile de traduire?
Yeah, the translations are very difficult, and I took them very seriously. And obviously, you can see I do understand quite a bit of French. But it was always that was a difficult job because they're very complicated. Some of the lyrics are very complicated. Not all of them, some of them.
Oui, parce que c'est difficile de traduire. Il y a tellement d'images poétiques, de figures, de styles, et que les mots. Enfin, quand on, par exemple, si on prend l'homme à la tête de chou,
yeah.
Ça peut. Voilà, il y a mille et une façons de pouvoir traduire ou de pouvoir dire.
Well, that's the thing that's most difficult because that's.
C'est ce qui est le plus difficile. Hein.
Actually, what you know, as the saying goes, what you lose in the translation is the poetry.
Ce que tu perds because dans la traduction, c'est la poésie.
It's because it, as it exists in one language, it simply can't be the same.
Mais il se donne beaucoup de mal à traduire les paroles. Il se fait beaucoup aider par les Français. Justement, il se donne du mal. Il est très consciencieux. Il cherche beaucoup d'aide et il dit que c'est très difficile, effectivement. Mais il cherche ces jeux de mots. Il cherche les sentiments des chansons. Yeah. Et pour lui, c'est important de traduire ce sentiment pour que ce sentiment et ces jeux de mots sont également transposés.
Et la poésie. Effectivement, comment on ne perd parce qu'un mot en français va avoir énormément de poésie et puis si on comment recréer de la poésie en anglais avec des mots qui ne sont pas forcément tout à fait les mêmes.
Yeah, and that is the most difficult bit to get, you know. So I could get the meat. Obviously.
Il a travaillé très dur pour respecter ces contraintes de la poésie. C'est ce qui est le schéma de rime et le schéma de
métrique,
de rythme et de métrique pour vraiment respecter ça. Et d'autant plus qu'il parle mieux allemand que français. Et donc, du coup, encore cette recherche de transposition totale avec le métrique et le rime.
Oui, puisqu'en fait, si c'était de la poésie pure, en fait, on n'a pas besoin de suivre. On peut s'en échapper un peu plus. Mais là, il y a non seulement les sons, les rimes, et il y a bien évidemment
la musique derrière.
Donc, c'est pour ça.
Pour lequel il faut caler dessus.
Justement, sur la question de la musique et les arrangements et les mélodies de Serge Gainsbourg, est-ce que c'est un petit peu comme avec la langue, vous changez un petit peu, comment vous jouez justement avec les mélodies et les arrangements originaux de Gainsbourg?
Well, the fortunate thing I had, or the thing for me, particularly being an arranger.
Sa musique en elle-même, il y en a beaucoup qui c'est absolument fabuleux. C'est la base même pour l'attirance vers sa musique. Et comme il est déjà une grande expérience d'arrangement de musique, bah tout simplement, s'il aimait bien, bah il a repris, il a utilisé. Et comme Gainsbourg a une énorme variété. Diversité de styles. Déjà, bon, il y avait parfois des chansons qu'il aimait pas trop. Donc, du coup, il se dit, bah voilà, moi, je vais.
Oui, il se sentait libre, en fait, de pouvoir interpréter, de s'échapper un peu plus, etc., par rapport à la musique. Est-ce que vous diriez que entre les chansons, la poésie, la littérature, les chansons peuvent à partir au domaine de la poésie et de la littérature. Et derrière cette question, c'est est-ce que remettre le prix Nobel de littérature à Bob Dylan vous a choqué, vous avez trouvé ça formidable? Est-ce que ça a ouvert un nouveau champ?
I understand why some people don't think it's correct, and I understand because it's outside of the normal.
Il dit que forcément, c'est les paroles de Dylan sont extrêmement puissantes, et déjà, c'est quand même une situation que Dylan il a gagné le prix Nobel en 2016, parce que sa musique justement, c'est hors norme. Mais c'est aussi ce qui est hors norme, c'est l'idée que les paroles de Dylan, ils sont faits pour être en fusion avec une musique. Donc déjà, il y a paroles en fusion avec la musique. Dans la littérature, il n'y a pas de musique derrière. Donc il y a cette division entre cette fusion de paroles, et alors que la littérature n'a pas cette fusion. Mais néanmoins, il trouve que c'est quand même quelque chose de positif que Dylan a gagné, parce que c'est quand même bien, c'est reconnu qu'il était quelqu'un d'extraordinaire avec ses paroles. Mais bon, il a dit quand même, il a juste fait une petite notation que Leonard Cohen aurait dû avoir gagné avant Bob Dylan. Mais bon, ça c'est que son... C'est que son avis.
Mais je pense effectivement que c'était intéressant effectivement, qu'il y ait eu ce prix Nobel pour aussi marquer, donner ces lettres de noblesse aux chansons. Elles ne sont pas que des chansons populaires, c'est aussi de pure création d'écriture de mots en chanson et en musique, mais c'est également une forme d'écriture.
Sure. I mean, and I, yeah, no, that's, yeah, of course it is. But I mean... and you know, you can, the Nobel Prize for Literature goes.
Pas forcément que la que ces paroles sont aussi bien reconnues, et bien sûr c'est un témoignage à la puissance encore de ces paroles, et que le pouvoir des mots de nous apporter et de nous toucher.
Oui, la puissance pour les mots de nous toucher grâce aux paroles dans les chansons. Et effectivement, c'est ça qui est merveilleux, et que ce soit reconnu, c'est une très bonne chose.
Et surtout cette idée d'ouverture vers la modalité des langues, la poésie. Qui est souvent le prix Nobel, qui est souvent attribué à quelqu'un assez obscur, qui n'est pas très public connu, ou notamment moins connu que Bob Dylan, alors que cette année, il était quelqu'un de très connu, était récompensé cette année en 2016.
Pour en revenir à Gainsbourg, quelle place il a dans l'histoire de la musique, et comment vous expliquez qu'il soit aussi peu connu en dehors de la francophonie, notamment dans le monde anglo-saxon?
Well, because he sings in French. But,
parce qu'il chante en français, c'est pour ça qu'il n'est pas aussi bien connu.
That's obviously
de la
why, and because he sings in French, and that's why there were so many great songs there that people had not heard.
Mais en dehors de la France, même des personnes qui sont des grandes fans de Gainsbourg, ils demandaient alors vos chansons, qu'est-ce qui vous parle? Ils connaissent 3, peut-être 4, éventuellement les extrêmes fans 5. Et pourtant, il y a tout son corpus du travail qui est, comme tous les Français connaissent, est absolument énorme.
Et est-ce que vous, Mick Harvey, il reste encore des chansons de Gainsbourg que vous n'avez pas encore reprises?
Are there any songs left?
No.
That you wished.
No, I thought he was saying something about doing them as a punk rock version. I just misunderstood the last words.
I think
I've definitely. No, that's kind of enough now.
Je pense que ça suffit. Il a fait le tour.
Too much already. So.
Une question pour moi, c'est la dernière. Pourquoi avoir choisi de traduire Je t'aime moi non plus, non pas en anglais, mais en allemand?
It is on the second album. In English.
Le chanson Je t'aime moi non plus, il est en anglais. Il a commencé avec cette chanson en anglais.
Dans son deuxième album, effectivement.
Voilà, il est un peu caché sur son deuxième album. Et qui était fait aussi par...
En 97.
En 97, mais c'était aussi reprise par pas mal de femmes dans les années 60.
La chanson, en fait, Je t'aime moi non plus, a été effectivement interprétée par beaucoup de femmes différentes et dans des nationalités différentes, etc. Mm-hmm. Donc effectivement, c'était quand même un peu le hot hit donc, de l'époque.
Qui est devenu mondial.
Absolument, oui. Ouais,
voilà. Et donc,
chaud quand même.
Il a dit qu'il a fait quand même son petit bout de scandale à le Serge Gainsbourg en disant que quelle langue pourrait éventuellement choquer les Français de prendre une chanson de Serge Gainsbourg. Et voilà, il dit l'allemand, ça risque de les faire frissonner un petit peu, leur froisser un petit peu. Pourquoi pas? Moi, je m'invite à faire ce mini scandale à la Gainsbourg.
Okay. But everyone ignored me anyway.
Oh.
Dernière chose, là, il y a d'autres concerts, notamment en France.
Oui, je crois que vous êtes à Paris le 15 novembre au 3 Baudet, si je ne me trompe pas. Je crois que oui.
Oh yes, it's a different concert, yeah.
Donc là, il y a...
Sur votre nouvel album, alors.
It's not a Gainsbourg concert.
OK, no, c'est le nouvel album. My other things.
Donc il y a toute cette tournée de concerts autour de l'œuvre de Gainsbourg, mais après, est-ce qu'il y a chez vous, Mick Harvel, un projet dans les cartons, comme par exemple s'attaquer au répertoire d'un autre artiste, où vous allez vous concentrer sur votre musique à vous?
Ou dans les autres projets, d'écrire un livre ou écrire de la poésie?
Another project of doing someone else like that.
Yeah, they're wondering what awaits us from you.
Oh, yeah.
Another artist that's inspired you?
No, I don't think so.
Maybe literature, poetry?
No, I don't think anything like that, no.
Kind of musical adventure.
I think I'll probably go. I've got a couple of projects of my own to, you know, work on. I mean, in between all the Gainsbourg albums, I've done 4 other solo albums and been working on a lot of other things, so...
Dans son temps mort de Gainsbourg, il a fait quand même 4 autres albums. Il a exploré d'autres musiques.
You know, and I worked with, you know, obviously I left Nick Cave and the Bad Seeds 10 years ago or something.
But I've been working. Nick Cave and the Bad Seeds il y a 10 ans.
But I've been working with PJ Harvey a lot, and
you
I
still
think,
working with her a lot?
No, not at the moment.
Okay. Il a travaillé beaucoup avec elle.
PJ Harvey, oui.
But I think, you know, I'll probably... my plan is to work on a couple of my own projects. They'd be, I don't know, original music or other things. I'm not sure.
Travailler sur son musique?
Sur sa propre musique, ses propres albums, effectivement.
On invitera évidemment les uns et les autres à aller écouter vos travaux autour de Serge Gainsbourg, mais aussi les différents projets qu'on a composés toute votre carrière. En tout cas, merci à vous, Mick Harvel, pour cet échange. Je rappelle que vous allez donc jouer prochainement le 15 novembre à Paris, que vous jouez ce soir ici au 106 à Rouen. Merci à vous, Isabelle Lefort, terre du festival Terre de Parole, de nous avoir accompagnés.
Merci.
Merci à Jérémy, à la technique, à Emmanuel aux images et évidemment à Leïla pour cette traduction. Bonne soirée à toutes et tous. Merci de nous avoir suivis.
Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Les concerts cette semaine au 106, ça commence demain soir, mardi 5 novembre, avec le concert de Mark Lanegan Band. Ça continue vendredi 8 novembre, concert de Earth. Et enfin, samedi 9 novembre, RK. À la semaine prochaine. Suckers of a seed, Annie, suckers of a seed. Give her kisses that taste like aniseed, as the slick barley sugar perfumed with aniseed flows into her throat. Then Annie finds it heavenly. Suckers of a seed.